On avait redécouvert cette chanson avec les Enfoirés qui l'avaient reprise. C'était Le Temps qui court, Alain Chamfort.
Ici Touraine, bienvenue chez vous.
Victoire Jacquet.
La famille, ce qu'il y a de plus important pour 83% des Français. Devant le travail, les loisirs ou l'argent, c'est bien ce qui compte le plus aux yeux des habitants de notre pays, d'après un sondage Opinionway. Un sondage qui révèle des taux aussi élevés en ville qu'à la campagne, chez les grands-parents comme chez les petits-enfants. Pour plus de 8 Français sur 10, la famille, c'est une évidence. En cette journée mondiale de la famille, je vous propose de questionner tout ça pendant une heure. Pourquoi la famille, c'est le plus important pour vous ? Avez-vous déjà vécu un conflit de famille qui vous a marqué à vie ? Avez-vous réussi justement à sortir de ce conflit ? Et aujourd'hui, peut-être êtes-vous plus apaisé ? Vous nous en parlez au 02 47 38 10 20. Que représente le mot famille pour vous ? WhatsApp et antenne, même numéro. On débat, on échange et on se rencontre. C'est bienvenu chez vous, tout simplement. Nous en parlons aujourd'hui avec John Fernandez. Bonjour John.
Bonjour Victoire et bonjour à tous vos auditeurs.
Vous êtes psychologue à Tours. J'ai envie de vous demander tout de suite, sans faire une analyse particulièrement profonde ou très avancée, le rapport à la famille, à l'enfance, aux parents, aux grands-parents, c'est un petit peu le socle de tout. Tout se joue dans la famille.
Tout se joue dans la famille quand elle est structurante. C'est pour ça qu'on parlait de conflit à l'instant et j'imagine qu'on en parlera aussi plus longuement et sans faire une analyse très profonde. Quand on parle de conflit déjà, il ne s'agit pas de le banaliser, mais de le normaliser. Un conflit, ça fait partie de la vie relationnelle. Et c'est même bien souvent comme ça qu'on apprend à placer des frontières, à vivre ensemble. C'est-à-dire, le souci n'étant pas le conflit, mais plutôt comment on arrive à le traverser ensemble.
Les tensions sont donc plutôt normales pour vous dans une famille. Pourquoi certains sont très proches de leur famille ? Ils le disent, moi je suis très famille. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et pourquoi au contraire on peut rencontrer des gens qui ne parlent jamais à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs ?
Ça dépend des expériences qui ont été vécues. Là encore, sans rentrer dans une grande analyse, vous disiez, je suis psychologue, je suis aussi thérapeute de couple. D'où le fait que je suis très heureux d'intervenir ici avec vous aujourd'hui. Dans les familles, des fois, il y a un certain nombre d'expériences qui font que ça n'est pas un socle qui est très sécurisant, la famille. Je ne parle pas forcément d'inceste ou d'exemples qui sont très importants et évidemment extrêmement marquants comme cela, mais des familles dans lesquelles il peut y avoir des conflits qui datent de plusieurs générations, des rapports, que ce soit à la terre, on parlait d'argent aussi à l'instant. La famille est censée être un socle sécurisant et qui nous cadre, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
Est-ce que globalement, dans la société, vous remarquez que la place de la famille a évolué? On en parle beaucoup par rapport au fait que on peut avoir ces personnes âgées que l'on peut placer en maison de retraite et on dit bah non, avant on faisait pas ça. L'âge auquel aussi les enfants partent de la maison, plus tôt, plus tard, plus loin aussi. Vous remarquez des évolutions, vous?
Oui, il y a des évolutions et nos amis sociologues nous éclairent beaucoup en la matière, notamment sur le fait que la mondialisation a imposé le déplacement sans forcément de parler de migration et d'aller loin ou dans d'autres pays, mais je prends un exemple très factuel, la ruralité, il y a plusieurs années, dans les milieux ruraux, c'était chose courante de passer une grande partie de sa vie à proximité du lieu dans lequel on avait pu grandir. Aujourd'hui, ça me paraît être plutôt l'exception. On se déplace plutôt vers les grandes villes, on s'agglutine, et puis forcément, cette distance géographique marque aussi des fois, je dis bien des fois et pas systématiquement, une forme de distance aussi dans les liens affectifs.
Quel est votre rapport à la famille ? Pourquoi, pour vous, ça peut être dur ou très sain d'être en conflit, d'avoir des petites tensions ou des grandes à la maison, mais que vous avez réglées ? On en parle calmement, gentiment, même pas obligé de donner votre nom à l'antenne, on peut changer tout ça, mais discuter, témoigner au 02 47 38 10 20, en cette journée mondiale de la famille. Il y a le WhatsApp aussi également, c'est le même numéro, là, c'est juste un petit message écrit ou un vocal pour nous transmettre tout ça dans Bienvenue chez vous. Vous écoutez Ici Touraine. Elle est inspirée par Sylvie Vartan, par Edith Piaf ou Dalida. C'est elle qui le dit. Elle s'appelle Oria. Vous découvrez Soirée mondaine avec Ici Touraine. Bon week-end.
Il était une fois une jeune demoiselle au regard insolent qui sortait le soir. Et comme d'habitude, elle cache sa vraie nature dans sa paire de gants. Et par lassitude, fuir ses soirées remplies de faux semblants. Quand soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant, au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours, de la tour Eiffel. Tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. La foule s'agite, ses yeux brillent de mille feux, ça la rend fébrile, évidemment. Elle attend qu'on l'invite à danser au rythme des chansons en oubliant ses sentiments. Quand soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant, au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours, de la tour Eiffel. Tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. Soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant, au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours, de la tour Eiffel. Tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. Le regard de celui qu'elle aime tant, au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours, de la tour Eiffel. Tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. Pour combler le vide simplement. Quand soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant, au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours, de la tour Eiffel. Tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. Le regard de celui qu'elle aime tant, au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours, de la tour Eiffel. Tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines.
Premier titre d'Oria que vous découvrez avec Ici Touraine, ces soirées mondaines.
Ici Touraine,
jusqu'à 11h.
Bienvenue chez vous.
En cette journée mondiale de la famille de ce 15 mai, on interroge vos rapports à vos proches, à ces liens du sang. Est-ce que d'ailleurs c'est vraiment ça, faire famille? On peut en parler aussi ensemble pendant une heure. Vous nous racontez peut-être aussi des conflits que vous avez traversés et résolus ou non, mais que vous souhaitez partager avec nous. Notre intervenant aujourd'hui, c'est John Fernandez, psychologue à Tours, thérapeute de couple. John, avant d'arriver sur cette notion vraiment de conflit, vous avez travaillé notamment sur les personnes âgées dans votre vie.
Effectivement, ma première spécialité, c'était ça. J'y ai passé presque 8 ans.
Revenons donc aussi sur les conflits. Comme je le disais, qu'est-ce qui peut se cacher derrière un conflit? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre profession?
Je pense qu'il y a deux choses derrière les conflits. Il y a des besoins qui sont des fois invisibles et il y a aussi des émotions qui sont cachées. Dans les besoins invisibles, je prends un exemple simple, on en parlait un tout petit peu avant l'émission. J'ai souvenir d'une séance en thérapie familiale dans laquelle les parents étaient assez inquiets de voir la façon dont les enfants géraient l'argent de poche. Et quand on les questionne, on se rend compte qu'en fait, on n'est plus en train de parler d'une gestion budgétaire ou financière, mais plutôt de la crainte que si mon fils, à son âge, adolescent, il a déjà du mal à gérer son argent, alors, quand il va grandir, il ne pourra qu'être un dilapideur en puissance. Et moi, à ce moment-là, d'avoir précisé, mes messieurs, dames, là, on n'est déjà plus en train de parler de gestion budgétaire, on est en train de parler de votre inquiétude à vous, sur votre fils. Donc là, on parle de besoin de sécurité, les parents veulent se sentir sécurisés par rapport à cette question. Et on peut aussi parler chez l'enfant de ce besoin de reconnaissance. C'est mon argent, je veux que vous reconnaissiez ma capacité à en faire ce que j'estime utile. Donc, besoin invisible. Et votre question étant, qu'est-ce qui se cache aussi derrière les conflits? Je disais un deuxième point, c'est des émotions qui peuvent être cachées. Bien souvent, pour exemple, derrière la colère, il y a de la peur. Ou derrière un besoin de contrôle, il peut y avoir de l'anxiété. Donc encore une fois, derrière les conflits, de quoi on parle, et souvent on raconte bien plus de choses que le sujet sur lequel on est en train de s'accrocher. Quoi.
Alors ça peut être la conclusion que l'on fait lorsque l'on est accompagné, mais lorsque l'on est au cœur de ce conflit, que l'on est partie prenante, qu'est-ce qu'on doit faire ? Prendre du recul ? Se dire « mince, je suis peut-être pas en train de dire ce que je pense vraiment, je cache quelque chose ?»
Alors là, vous êtes déjà en train de m'embarquer sur un point très intéressant, c'est finalement comment on apaise les conflits. Alors là, vous ciblez la question de la communication. Oui, il y a de ça. Un principe de base en communication, de ce qu'on appelle la communication non violente, c'est parler pour soi et non pas parler à la place de l'autre. Donc plutôt que de dire « tu ne m'écoutes jamais », ça serait intéressant plutôt de préciser « je me sens seul quand j'ai l'impression de ne pas être entendu ». Et un autre point qui est extrêmement important aussi, c'est celui des fois de ralentir un peu le rythme. Parce que dans les conflits familiaux, on répond bien plus souvent à l'émotion avant de répondre au message.
On est peut-être un petit peu plus vif.
Ouais.
Pourquoi les conflits familiaux font souvent plus mal que les autres ? Pourquoi laissent-ils plus de blessures dans le temps ?
Parce qu'on se raconte inévitablement qu'on ait des rapports distendus, apaisés ou pas, que symboliquement on va partager cette histoire toute notre vie avec ces gens. C'est la différence entre un amour conjugal, qui hélas peut s'arrêter à certaines conditions, la trahison, ce genre de choses, et de l'amour inconditionnel qu'on voue aux gens de notre famille, inconditionnel, n'ayant pas de conditions. Donc, on peut être en conflit avec ces gens qu'on aime, on peut décider faussement, puisque moi, à titre personnel, je n'ai jamais vu ça réellement, couper les ponts. On peut surtout décider de plus nourrir ce lien, mais il continue de nous constituer. Preuve en est, puisque quand on parle d'un conflit passé, on peut se sentir ému, alors que les gens, justement, avec qui on est en conflit, des parents, des grands-parents ou autres, on n'a plus de nouvelles depuis longtemps. Quoi.
Est-ce qu'il y a des périodes de vie où les tensions explosent davantage ? Vous parliez de l'adolescence il y a quelques instants.
J'allais dire, je ne vais pas me faire embarquer là-dessus. Y a des...
Pourquoi ?
Je vais y venir. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui s'appelle Xavier Pomereau, qui a beaucoup travaillé cette question-là, qui est pédopsychiatre à Bordeaux, et qui disait en conférence un jour, le problème à l'adolescence, c'est bien plus souvent la crise des parents que la crise des enfants. Donc, je suis pas certain que c'est la période à laquelle il y a le plus de conflits. À la petite interlude tout à l'heure avec la musique, on parlait justement de la difficulté dans les familles, comme dans tout système, un couple en étant un aussi, une entreprise ou autre. La difficulté, c'est pas est-ce qu'on n'est pas d'accord, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait quand on acte que ça fait longtemps qu'on ne se raconte plus la même histoire. Donc justement, qu'est-ce qui fait que ça fait plus mal quand c'est la famille ? Parce que en théorie, on s'est raconté cette même histoire pendant longtemps, dans l'enfance, et quand on grandit, bah, on s'émancipe, on part, et on décide peut-être de se raconter la vie d'une façon assez diamétralement opposée à ce qu'on a reçu, quoi.
Alors je parlais de l'adolescence parce qu'on l'évoquait, mais il y a aussi l'arrivée de quelqu'un, par exemple, une relation nouvelle,
totalement.
Le vieillissement aussi des parents, ça reste quand même des périodes intenses.
Bien sûr, mais on n'est plus à l'adolescence du coup. Donc on est plutôt dans l'idée d'une succession de crises au pluriel. C'est ça, la crise, si on en prend une définition littérale, c'est la rupture d'un état d'équilibre qu'on connaissait jusqu'à présent. J'habite seul, j'habite avec quelqu'un, c'est une crise. Je suis au domicile familial, je pars pour les études, c'est une crise. Mais la crise ne veut pas dire il y a quelque chose de catastrophique qui se passe, mais c'est une invitation à se rééquilibrer. Et malheureusement, quand certaines familles sont fragiles pour diverses raisons, parce qu'elles traînent des passifs des fois assez compliqués, et qu'elles arrivent en consultation avec nous, notre but, ça va être d'essayer de leur proposer une nouvelle base de stabilité.
Est-ce que dans une famille, chacun tient un rôle ?
Inévitablement, chacun tient un rôle. Le plus difficile, c'est de le tenir et c'est de pas déborder celui des autres. Exemple pragmatique, quand il y a, hélas, un décès dans une famille, de façon assez réflexe, on observe qu'il y a toujours quelqu'un, que ça soit l'autre conjoint, un enfant ou autre, qui essaie de se substituer au rôle de la personne qui est partie, pensant bien faire. Et ce qui m'amène à un autre point, c'est le désir de ne pas mal faire ne produit pas du bien. C'est pas parce que j'ai envie de contribuer à ce que tout le monde soit confortable que ça veut dire que c'est forcément ce qui va se passer, quoi. Je pense qu'à table, c'est intéressant métaphoriquement de laisser une chaise vide un peu. Voilà, ça veut dire on va pas prendre la place de celui qui part, mais le simple fait que cette place on la laisse vide, ça nous permet de nous rappeler que on a chacun le rôle à jouer d'avant le décès, quoi.
On parle ce matin de la famille, en cette journée mondiale de la famille, avec ses bonheurs, ses souvenirs, mais aussi parfois avec ses conflits que vous avez pu traverser. Peut-être qu'ils ont été anodins, qu'ils vous ont occupé l'esprit pendant une semaine ou pendant plusieurs années. Pouvez-vous nous les raconter au 02 47 38 10 20 à l'antenne d'Issy Touraine et sur le WhatsApp, bien sûr.
Lucinda Riley, l'autrice de la saga Phénomène des Sept Sœurs, revient avec un magnifique roman, L'Ange de Marchmont Hall. 30 ans après l'accident tragique qui a effacé une partie de sa vie, Greta retourne au domaine de Marchmont Hall. Une découverte bouleversante dans le parc va raviver ses souvenirs enfouis et la lancer sur les traces de son mystérieux passé. L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, enfin au livre de poche. Tout savoir sur...
Cyclamed vous accompagne pour trier les médicaments non utilisés, périmés ou non. Comment faire? Que rapporter en pharmacie? Réponse dans un instant.
La 39e fête au fromage et de la gastronomie revient les 16 et 17 mai à Neuilly-et-Pompière. Au programme, concours de fromage et de charcuterie, coup de cœur viticole, animation de rue, concert, brocante, fête foraine, trail, course de vélo, intronisation à la commanderie des fromages de Sainte-Maure de Touraine. Et toujours de nombreux exposants locaux et de toute la France.
Ici Touraine.
Sur la route, au travail, à la maison.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Mes premières séances, c'est un vinyle qui vient de sortir il y a deux jours avec la voix d'Eddie Mitchell sur les grands classiques de la comédie musicale américaine dont il est fan. C'est disponible en ce moment en magasin et sur internet. Ici Touraine, voici Eddie Mitchell.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Na-na-na-na. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo cherchent du regard un spot de Dieu projecteur. Bien sûr, elle ne m'a pas vu, perdue dans sa mégalo. Moi, j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentalo. Hollywood est dans sa tête, toute seule elle répète son entrée dans un studio, décor couleur mentalo, perdu dans sa est entré et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox.
Eddie Mitchell, couleur mentalo avec Ici Touraine.
Ici Touraine.
Jusqu'à 11h.
Bienvenue chez vous.
En cette journée mondiale de la famille, nous parlons ce matin de votre rapport à la famille. Attendez-vous beaucoup plus des membres de votre famille que peut-être des amis ou des collègues? Avez-vous déjà traversé un conflit que vous avez résolu ou non et avec lequel vous souhaitez bien discuter avec nous de tout ça ce matin? Au 02 47 38 10 20. Aujourd'hui, nous en parlons avec John Fernandez, qui est psychologue à Tours et une personne qui nous a appelé. Bonjour à vous au téléphone.
Oui, bonjour.
Est-ce que je dis votre prénom? Je dis rien.
Vous pouvez ne rien dire, oui.
Pas de problème. Quel est votre témoignage aujourd'hui?
Alors, j'ai un témoignage important. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est la journée mondiale de la famille et moi, je suis fondamentalement très, très famille. Enfin, j'étais, mais malheureusement, je ne peux plus l'être vu les circonstances. J'ai perdu mes parents et j'ai un fils qui est parti depuis 2 ans et demi travailler très loin. Je vais quand même le dire, en Guyane, à Cayenne, il est journaliste. Et du coup, la distance enraye un petit peu la communication, même beaucoup. Et ma sœur ne me parle plus depuis le décès de ma mère. Ça a cassé toute l'ambiance de famille, alors que nous faisions beaucoup de choses en famille. Et je me questionne et je comprends pas pourquoi.
Est-ce que vous avez une question particulière avec tout ça? La question, oui. C'est quoi derrière tout ça?
La question, c'est que je me culpabilise. Je me dis peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas au niveau de la famille pour que les gens ne... La seule famille qui me reste ne veulent plus communiquer avec moi. J'essaye, mais j'ai pratiquement pas de retour.
John, est-ce qu'on peut donner des éléments de réponse à cette situation?
Alors, quelques éléments brefs. Effectivement, moi, éthiquement, je suis toujours très, très prudent à ne pas faire une analyse auprès de personnes et d'accompagnement, surtout auprès de personnes que je ne rencontre pas. Merci à cette dame pour son témoignage, c'est fort. Moi, quelque chose déjà que j'ai envie de préciser, donc en m'appuyant sur cette situation pour avoir un propos plus global, c'est de sortir de cette logique de savoir qui a raison. Parce que des conflits, ça n'est jamais quelque chose qui repose uniquement sur un seul individu. Pour moi, la vraie question, c'est pas qui c'est qui a raison, mais plutôt qu'est-ce qui se passe entre nous. Donc à ce moment-là, on vient répartir plus équitablement ce qu'on appelle la chaîne des responsabilités. Il y a un petit peu de responsabilité certainement de cette dame, mais certainement aussi de ce fils, certainement aussi de cette sœur, certainement aussi de ses parents ou cette maman décédée. Donc on dit pas tout le monde est coupable. On dit en tout cas cette dame qui nous fait partager son témoignage n'est pas la seule responsable de cette situation. Donc déjà, encore une fois, sortons de cette logique du qui a raison. Je me représente une famille un peu comme une toile d'araignée. Quand on a un fil qui bouge, en réalité, c'est l'intégralité de la toile qui bouge. C'est-à-dire que le fait que ce fils habite à distance, le fait qu'il y ait, voilà, après un décès, des liens qui se redistribuent, ou difficilement d'ailleurs, signe surtout des fragilités qui étaient peut-être, hélas, déjà là, avant ces facteurs multiples. C'est-à-dire, en gros, que le système était peut-être déjà un petit peu fragile, avant effectivement ce décès, avant effectivement ce départ de ce fils, etc. Donc l'idée plutôt, c'est non pas est-ce que le conflit abîme, ou plutôt c'est cette situation difficile, mais plutôt c'est l'absence de réparation là pour moi qui est plutôt abîmant. Donc la question à ce moment-là, c'est plutôt garder en tête que toutes les familles se blessent parfois, mais ce qui fragilise plus une relation que le conflit, c'est plutôt l'absence de réparation. Après.
Est-ce que vous arrivez peut-être à entretenir le lien avec ce fils qui est loin, parce que ce n'est pas la distance physique qui peut faire dire qu'on est moins proche? Est-ce que vous arrivez quand même à être en contact facilement?
Très très difficilement, par WhatsApp, et j'ai des réponses très furtives, et c'est moi qui demande des nouvelles. J'en ai très très peu en retour, il n'en demande pas, et je pense que l'éloignement fait un petit peu, mais le physique joue beaucoup, je pense, l'éloignement. Et je sais pas comment entrer correctement en relation avec lui. Et avec ma sœur, je fais pareil, j'essaye d'envoyer des messages, demander des nouvelles et d'en donner, mais j'ai aucun retour. et je rentre pas dans les conflits ni rien du tout, je reste polie et comment dire normale entre guillemets, mais le lien est vraiment coupé et je sais pas de quelle façon faire.
Alors effectivement, je répète pour pas aller plus loin, puisque déjà je suis persuadé que votre situation est beaucoup plus complexe et importante pour que on se contente de donner un espèce de conseil un peu solutionnant comme ça dans l'absolu. On a évoqué deux choses tout à l'heure pendant l'émission. La première, alors on prenait l'exemple de la mondialisation, mais en disant que de plus en plus on peut être amené, et cette dame nous le montre avec cette situation, à vivre aussi cette distance géographique familiale. Voilà, là ce fils qui habite un peu loin. Et on parlait aussi dans les techniques de communication, du fait de parler pour soi et de parler de ce qu'on ressent avant de parler pour l'autre. Donc là, l'idée, si on illustre ça dans cette situation-ci, ça peut être d'abord et avant tout de préciser pour cette dame ce que ça lui fait quand effectivement elle essuie des retours assez furtifs, comme elle dit. Et bien entendu, si elle souhaite davantage d'échanges, c'est avec plaisir, post-émission, qu'on pourra, elle et moi, ou auprès d'un de mes collègues, prendre le temps d'un échange nourri et sérieux.
On va finir là-dessus. Est-ce que vous avez déjà demandé à des personnes de vous accompagner dans cette situation qui vous pèse ?
Oui, mais les personnes qui essayent de m'accompagner ont beaucoup de mal parce qu'ils ne connaissent pas les autres personnes. Donc, ils ont que ma version, en fait. Donc, c'est pas facile de trouver des pistes pour pouvoir avancer dans cette situation.
Alors, a priori, je pense que vous irez dans mon sens, John. Il faut essayer plusieurs professionnels
bien entendu.
Pour trouver la personne qui nous correspond le mieux et qui parfois réagit le mieux à la situation que l'on expose. On vous dit merci. D'avoir témoigné ce matin. Et rien n'est établi, rien n'est fataliste, John.
On essaye
de rester positif avec cette question-là. On vous souhaite de tout cœur que ça s'arrange et que vous trouviez un petit peu plus d'apaisement là-dedans. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
Et à bientôt sur l'antenne d'Ici Touraine. Des bonnes idées sorties, c'est maintenant.
Ici Touraine, tous les jours à vos côtés.
Je vous propose de vous retrouver en famille ou avec les amis à la 31e rencontre nationale des deux chevaux clubs de France. C'est dans le Loir-et-Cher, à Villiers-sur-Loire, jusqu'à dimanche, jusqu'au 17 mai. Au programme, 3000 véhicules qui sont attendus sous un grand chapiteau, des concerts, des spectacles, une tombola pour gagner une deux chevaux et des produits régionaux. Oui, la tombola, c'est 2 euros pour gagner une deux chevaux. Non mais franchement, ça peut valoir le coup quand même. Tout ça, c'est à Villiers-sur-Loire, jusqu'à dimanche, à côté de Vendôme. Et puis enfin, en un mot, dimanche, c'est aussi à la guinguette de Tours-sur-Loire que vous allez pouvoir retrouver plein de concerts, d'escape games, des jeux et des animations, pardon, à propos de l'Europe. Tout ça, c'est autour du Portugal et de l'Espagne. L'accent est mis sur ces deux pays cette année. Là aussi, danse, flamenco, café, tombola, nombre lots à gagner, c'est gratuit, à la guinguette de Tours-sur-Loire.
Ici Touraine,
actu locale, musique et bonne humeur.
Joli titre qui s'écoute sous le soleil, surtout le moment où il siffle au milieu. Moi j'aime bien ce moment-là. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Vous écoutez Ici Touraine, 9h38.
My heart.
avec The Mechanics Over My Shoulder avec Issy Touraine.
Issy Touraine, bienvenue chez vous.
Victoire Jacquet.
Ce matin de la famille, dans Bienvenue chez vous, de votre rapport à la famille. Je rappelle ce chiffre quand même, 83% des Français estiment que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important avant le travail, avant les loisirs, avant l'argent, avant les amis, avant l'amour. C'est la famille qui compte. Et pour vous, 02 47 38 10 20, vous nous en parlez pendant encore une petite dizaine de minutes. À l'antenne d'Issy Touraine, nous avions à l'instant, il y a un témoignage très fort d'une auditrice qui nous a appelé, qui nous évoquait une question de la distance notamment. John Fernandez, vous êtes psychologue, j'ai une question à ce propos. La distance, d'accord, comment on peut expliquer sans conflit parfois, ou en tout cas grosse altercation, que nos enfants, nos petits-enfants ne nous parlent pas trop? Est-ce que c'est, je mets les pieds dans le plat, de l'ingratitude parfois?
J'en profite pour passer un petit coucou à mon maître à penser à moi qui s'appelle Serge Esco, qui est directeur de l'Institut d'anthropologie clinique de Toulouse, où j'ai été formé notamment en thérapie familiale. Et quand on a été formé, Serge et l'intégralité de nos enseignants nous expliquaient que tout comportement est adaptatif. C'est-à-dire qu'un comportement, ça a un sens, ça raconte quelque chose de notre histoire, et ça a aussi une certaine utilité, ça a une fonction. Donc, là où effectivement on peut placer par exemple ce terme, ce qualificatif d'ingratitude, moi je dirais c'est un comportement qui peut être difficile pour nous qui ne sommes pas dans cette situation, qui pouvons l'observer de l'extérieur, mais je suis toujours persuadé que les gens ont toujours des bonnes raisons d'agir comme ils agissent, même si ça prend cette forme qui peut paraître un peu rude et qu'on aimerait voir être produite différemment. Mmh. Je prends un exemple très pragmatique. Hein. J'ai souvenir en séance d'une situation dans laquelle, thérapie familiale, la maman avait presque déserté un peu le foyer. Et quand on n'est pas dans cette situation, on peut dire mais évidemment, quelle mère horrible, etc. Et en fait, quand on s'est intéressé à l'histoire de cette personne, on s'est rendu compte de quoi ? Que cette femme vivait de la violence conjugale et que sa façon à elle de préserver les enfants en ne leur disant pas ce que papa faisait, ça avait été de mettre cette distance. Ça a pris une forme qui a été dramatique parce que les enfants n'ont pas compris, ils se sont culpabilisés, ils ont eu l'impression d'être de mauvais enfants ou de ne pas avoir vu quelque chose. Encore une fois, dans une situation comme celle-ci, bien qu'inadapté, ce comportement tend quelque chose, c'est essayer de maintenir l'équilibre des enfants, même si c'est pas exactement ce qui s'est produit dans les faits.
D'où cette question de l'adaptation, ouais. Comme vous le disiez juste avant. Est-ce qu'il faut toujours essayer de résoudre un conflit ?
Alors, ma représentation personnelle m'invite à penser que oui. Après, là encore, j'ai envie de dire, ça dépend du type de famille dans laquelle on souhaite revenir. Si on est très régulièrement en conflit parce que, on en parlait avant l'émission tout à l'heure, on peut avoir des représentations différentes en fonction des générations. Je vous disais en plaisantant, moi je vais avoir 35 ans, je suis d'une génération dans laquelle mes parents m'embêtaient pour que je rentre à la maison parce que je jouais tout le temps dehors. En séance, ça me paraît être assez pragmatique aujourd'hui que le contraire s'opère. C'est souvent les parents qui me disent « j'aimerais qu'ils sortent un peu plus, ils passent son temps sur les écrans ». Donc, nos représentations, nos générations vivent le rapport effectivement à la conflictualité différemment. Si dans la famille, il y a beaucoup de conflits, la résolution du conflit veut dire un peu plus de famille. Donc maintenir le conflit, dans un exemple comme celui-là, c'est aussi la possibilité de maintenir à distance des parents, des fois qui peuvent être un peu difficiles, oppressants, exigeants, ou des choses comme ça.
Parmi toutes les expériences que vous avez rencontrées, l'idée c'est pas de dire qu'est-ce qui marche, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de mathématique, mais comment faire le premier pas. Voilà, j'imagine un auditeur, une auditrice qui nous entend ce matin avec la multitude de situations qui peut exister. Est-ce que les lettres, ça marche ? Est-ce que le « bonjour, je viens chez toi », ça marche ? Qu'est-ce que vous avez observé de petit pas par petit pas qui, quand même, a fait décanter des situations ?
Alors, mon parcours de formation à moi m'a rendu très sensible à ce qu'on appelle le narratif, c'est-à-dire comment on se raconte cette histoire. Si moi, en tant qu'enfant, je me dis « mes parents sont des vieux débiles qui comprennent plus rien », il y a de fortes chances que je continue à les maintenir à distance si je me raconte pas les choses un peu différemment. Donc, quand je reçois, moi, les familles en séance, on fait avec eux un truc simple, on fait circuler la parole. Alors, quitte à ce que des fois, même avec des adultes, on prenne le bâton de parole, parce que des fois le ton monte un peu, je pense qu'il faut avoir des oreilles et un cœur un peu solide quand on fait ça. Et dans ces situations, quand moi je les reçois en séance, je les invite Non pas à leur dire tout, enfin non pas à dire tout ce qui leur passe par la tête sans filtre et avec brutalité, mais plutôt de dire on est là parce que des vérités doivent être dites et on va voir ce qu'on va en faire après. Et effectivement, un jeune qui va commencer à me dire mes parents sont des vieux débiles qui comprennent rien, les parents qui soudainement me rétorquent avec tout ce que j'ai fait pour lui, quelle ingratitude, on parlait de ça tout à l'heure, je préfère plutôt me dire qu'on a un souci réciproque de reconnaissance. Donc l'idée, c'est aussi, d'abord et avant tout, de commencer par cultiver ce qui fait encore sens commun. Parce que chercher uniquement à laisser exprimer les uns les autres leurs différences, c'est le meilleur moyen de continuer à alimenter du différent, et peut-être à terme de l'indifférence, quoi.
Et donc peut-être d'aller chercher aussi dans les souvenirs heureux, dans les photos, dans des bons moments.
Et puis aussi dans les valeurs qu'on partage encore aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est plus capable de passer 20 minutes à table sans s'écharper que ça veut dire pour autant qu'on a que des différences. Si on est ensemble des gens impétueux, on peut aussi se rappeler que nos tempéraments font de nous des gens solides. Donc là, soudainement, on passe de « on peut plus rien se dire à table sans se fâcher » à « hey, on est quand même des gens honnêtes et qui pouvons nous raconter les choses ».
Le verre ça, à moitié sens, plein, quoi. À moitié vide. Il y a un peu cette histoire-là quand même.
Ouais, essayons de ne pas se noyer surtout.
Ouais, c'est ça, vous le comprenez. On parle de la famille ce matin, de votre rapport à la famille. 02 47 38 10 20 pour intervenir dans Bienvenue chez vous.
Vous avez été très nombreux à jouer à la deuxième édition du jeu Voyage, Voyage.
Voyage, Voyage.
Mais il n'y a eu qu'une seule gagnante.
Je vais être intraitable, mes amis. Hein. Allez.
Tu sais qui t'appelle, ma Julie ?
Willy ?
Avec Voyage, Voyage, ICI et Bellambra vous offrent 10 000 euros de vacances en famille ou entre amis, à la mer, à la montagne ou à la campagne.
Rendez-vous très vite pour jouer à nouveau à Voyage, Voyage sur ICI.
Votre radio. ICI Touraine, toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Greg, petite question. Toi qui réalises cette émission, c'était le tube de l'été il y a combien de temps ? Il y a 40 ans, tout pile, l'amour à la plage Niagara.
Ce soir, j'irai danser le mambo au Royal Casino sous les lambris rococo. La pluie viendra me faire oublier. Tu me feras rêver comme dans les chansons d'été.
grandi à Chinon, Muriel Moreno, avant d'arriver à Rennes et de constituer le groupe Niagara.
Ici Touraine,
jusqu'à 11h,
bienvenue chez vous.
Quelques minutes encore ensemble dans Bienvenue chez vous avec notre psychologue ce matin, c'est John Fernandez, psychologue à Tours. On parle de la famille en cette journée mondiale de la famille. John, il y a une question que je ne vous ai pas posée. On entend souvent que l'on reproduit ce que l'on a connu enfant. Comment on fait pour ne pas reproduire les mêmes schémas, ou pire, se dire « mince, je suis en train de faire comme mon père ou comme ma mère ».
Alors, je ne suis pas certain qu'on reproduise systématiquement ce qu'on a vu. On part d'une base, mais j'avais un de mes enseignants que j'ai beaucoup aimé qui disait avec beaucoup de précision « nos parents ne sont responsables qu'à 33,3% de nos problèmes ». Alors le jour où il m'a raconté ça, je lui dis « c'est très précis, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins ?» Alors la réalité, c'est qu'en fait, ils sont responsables à un tiers de qui on est, mais on est aussi responsable au regard de nos expériences individuelles passées, à un tiers aussi, et le dernier tiers, c'est notre culture. Donc culture, éducation, expérience passée, forme qui on est. Donc on peut avoir vécu, par exemple, une violence, une enfance jonchée de violence, sans forcément devoir être soi-même auteur ou condamné à être victime. On peut faire des rencontres, nos amis, des conjoints ou conjointes qui ont aussi ce don d'essayer de nous outiller différemment, à défaut de dire réparer, quoi.
Pour les quelques minutes, même pas secondes, qui nous restent, j'ai une question sur laquelle on pourrait durer des heures.
C'est quoi ?
Ouais, d'accord, allez, on fait ça. C'est quoi une famille heureuse ? Est-ce que c'est une famille où il n'y a pas de conflit ?
Alors non, je pense pas qu'une famille heureuse, c'est une famille dans laquelle il n'y a pas de conflit. Je pense que c'est surtout une famille qui est capable de retrouver du lien après tout ça, notamment après des conflits. Ce qu'on appelle aussi de la résilience. Il y a cette phrase que j'aime bien, qui dit « on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, mais on l'est systématiquement de ce qu'on en fait ».
Parfait.
Allez, guider.
On restera là-dessus. John Fernandez, justement, j'ai découvert sur le site où on peut, vous savez, réserver, c'est pas le mot réserver, mais prendre un rendez-vous chez nos personnels soignants. Vous, quand on veut prendre un rendez-vous chez nous, il y a marqué quelques problèmes passagers, pas fan des psys qui gardent le silence l'intégralité de la séance durant.
Oui.
Pas de crainte. Le bavard que je suis vous assure avec un trait d'humour que vous êtes au bon endroit. Si on vient vous voir, on cause et vous aussi avec nous.
Oui.
John Fernandez, psychologue à Tours. Vos coordonnées sont à l'accueil d'ici Touraine si besoin. 02 47 38 10 20. Merci pour cette belle émission.
Merci pour votre
que l'on vient de faire ensemble dans Bienvenue chez vous. Le veto arrive dans un instant.
La última vez, loquilla, amo.
J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais tout éteint.